Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous. À 2 semaines du premier tour des élections municipales, c'est l'heure de la grande tchatch, le rendez-vous politique du mensuel Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Avec nous, pour cette émission, Michel Rubirola n'est pas là. La tête de liste du printemps marseillais qui fédère la gauche, des écologistes et des citoyens a été empêchée pour motif de santé. Mais rassurez-vous, rien de grave. Et nous avons ainsi le plaisir d'accueillir une autre candidate du printemps marseillais, Sophie Camard, qui conduit la liste pour conquérir la mairie du premier secteur, celle des 1er et 7e arrondissements. Mais avant de tchatcher, comme c'est l'usage, voici un court portrait de notre invitée. Voilà déjà 17 ans, Sophie Camard, que vous avez posé vos bagages à Marseille, juste à temps pour acheter le premier numéro du Ravi. Vous êtes née dans un autre port, celui du Havre. Avec une mère enseignante dans un lycée professionnel et un père technicien à la raffinerie de Normandie, votre seule capitale, c'est la matière grise. Une mention très bien au bac vous conduit à Sciences Po Paris et vos études à la Sorbonne vous ouvrent le chemin d'un métier singulier, experte pour les comités d'entreprise. Une profession qui prolonge vos engagements personnels. Car vous n'avez pas attendu le printemps 2020 pour plonger dans le chaudron politique. Au commencement, il y a le syndicalisme étudiant, puis des aventures à la gauche de la gauche. Suite à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, vous rejoignez les Verts. À Marseille, depuis 2003, après une mutation professionnelle, vous militez toujours avec les écolos. Votre premier mandat sera, dès 2010, conseillère régionale dans la majorité plurielle de Michel Vauzelle. Vous présidez le groupe écologiste à la région. Au municipal de 2014, vous soutenez la liste citoyenne de Pape Diouf, qui échoue à changer la donne à Marseille. Mais c'est lors des élections régionales de 2015 que vous jouez un rôle au premier plan en menant une liste coopérative, c'est son nom, fédérant les écologistes et le Front de gauche. Avec 6% des suffrages, la tentative n'est à nouveau pas un franc succès. Parce que l'avenir en commun conjugue urgence sociale et écologique, vous rejoignez ensuite la France insoumise. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon se présente aux législatives, vous devenez sa suppléante. Mais député suppléante n'est pas un mandat, vous êtes donc toujours salarié du privé et militer aux côtés du bouillonnant Mélenchon dans un mouvement gazeux comme la France insoumise n'est pas de tout repos. À Marseille, des insoumis comme vous ont rejoint le printemps marseillais. D'autres, dans la mairie du 7e secteur aux mains de l'extrême droite, sont sur une liste soutenue par Europe Écologie Les Verts et certains sympathisants observent le spectacle à distance. La promesse de renouveler les pratiques, de fédérer militants politiques et associatifs, élus de bonne volonté et collectifs citoyens, s'est heurtée aux logiques d'appareil, aux ambitions personnelles, aux divisions. Après 25 ans de gouvernance Gaudin et alors que Martine Vassal, l'héritière désignée, déploie de gros moyens pour sa campagne, l'espoir est là, affirme le printemps marseillais. Les 15 et 22 mars, on saura si c'était juste un slogan. Une réaction au portrait ?
Ah, merci, c'est assez juste et objectif. Voilà, sauf sur la fin, je pense qu'on n'est pas dans l'échec. Au contraire, on a surmonté de grandes difficultés, mais il y a une bonne dynamique de succès, je trouve, plutôt sur le printemps marseillais.
On va parler tout ça, l'émission est faite pour. Mais peut-être commencer par définir ce que c'est que ce printemps marseillais, parce que ce n'est pas évident. La campagne démarre un peu tardivement.
Elle démarre tardivement, mais enfin, on a quand même beaucoup discuté. On a pris des mois entiers pour poser les fondations. Comme j'explique toujours, construire un rassemblement aussi innovant avec des politiques et surtout beaucoup de citoyens qui ne sont plus encartés, qui ont d'autres cultures associatives, parfois qui viennent de certaines sensibilités de gauche très différentes, de mettre ensemble des personnes qui n'avaient plus l'habitude de se parler, eh bien ça a pris du temps, il y a eu beaucoup de débats nécessaires, beaucoup de conflits, et puis finalement nous annonçons nos têtes de liste un peu en même temps que tout le monde. J'ai pas l'impression qu'on est en retard dans la campagne, alors sauf Madame Vassal, qui est partie très tôt, qui a mis beaucoup de moyens, notamment ceux de sa collectivité locale, je dirais, que tout le monde le sait, mais sinon par rapport aux autres listes, je trouve que finalement on est à l'heure sur la ligne de départ pour le sprint final.
Alors peut-être déjà, puis ça fait débat, qui est derrière ce printemps marseillais? Quand nous, journalistes, quand on reçoit des mails, il y a une définition, toujours en bas de message, et qui dit que c'est un mouvement politique sans précédent, qui réunit des partis de gauche. Et il y a une longue liste derrière, du Parti Socialiste à la France Insoumise, en passant par le Parti Communiste Français, les Radicaux de Gauche, Génération, Place Publique, Nouvelle Donne, Gauche Républicaine et Socialiste, le Parti de Gauche Ensemble, le Parti Pirate, des écologistes. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, face à cette fameuse soupe au logo que parfois, en particulier la France Insoumise, on a pu critiquer.
Oui, mais alors justement, il n'y aura pas de logo. Moi, par exemple, sur mon bulletin de vote, il n'y aura pas de logo et on a cherché à dépasser nos partis respectifs. Il faut savoir que le printemps marseillais, dans ce qui a été conflictuel, c'est qu'en fait, finalement, ce sont surtout des personnalités qui se sont rencontrées et qui ont décidé de le faire. Et c'est vrai qu'on a chacun un petit peu, parfois heurté nos propres mouvements politiques, hein, je le reconnais, parce qu'on était convaincus de cette espèce d'intérêt général qui nous portait à faire ça. Et il faut bien savoir que ça n'a été facile ni pour moi avec la France Insoumise, ni pour Benoît Payan avec le Parti Socialiste. Même au sein du Parti Communiste, je dirais, qui a été assez uni sur cette démarche, il y a pu sans doute y avoir des débats sur la stratégie. Puis après, bon, les petits partis cités sont là et sont bien là, sur nos listes. Ils sont plus petits, ils ont peut-être moins de débats internes. Mais il faut comprendre qu'on a chacun surmonté aussi beaucoup de difficultés au sein de nos propres appareils. Donc c'est ce qui plaît d'ailleurs un peu aux gens d'ailleurs sur le terrain, c'est qu'on a su aussi surmonter des difficultés comme celle-ci. Donc je dirais c'est des hommes et des femmes de bonne volonté au départ qui ont conscience qu'il faut sortir de ce champ de ruines. Quand on sortait des européennes surtout, qu'on a vu la gauche complètement éclater, on s'est dit bah voilà ce qu'il ne faut pas faire pour les municipales et donc on fera différemment.
Vous êtes formel, c'est-à-dire sur les affiches, sur les professions de foi, il n'y aura pas les logos
C'est ce qui est prévu. Donc après chaque tête de liste de secteur, certains feront peut-être différemment. J'ai pas encore regardé tous les bulletins. En tout cas, moi, il y en aura pas. C'est quand même la charte graphique que vous voyez sur la charte graphique du printemps marseillais, c'est sans les logos. Et encore ce matin, on rédigeait nos professions de foi. Et moi, j'ai mis un petit encart disant bien que on dépasse nos identités politiques et nos logos.
Et est-ce qu'à l'inverse, ça risque pas de perdre certains électeurs qui sont pas dans qui suivent pas tout ça et qui vont se dire, mais c'est quoi ce printemps? Et alors que, de fait, ce rassemblement de toutes ces organisations est pas très fréquent et dans cette amplitude-là.
C'est pour ça que finalement, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas maîtrisé, mais qui est positif. C'est qu'on a mis du temps à annoncer notre tête de liste et nos têtes de liste de secteur, vous vous souvenez. Et du coup, pendant tout ce temps-là, on a fait beaucoup de communication sur le printemps marseillais. Et mine de rien, je crois que c'est un intitulé qui marque, en tout cas moi je vois sur le terrain, les gens commencent à bien identifier ce que c'est. Après, il n'y aura pas d'autres listes concurrentes si ce n'est celle d'Europe Écologie Les Verts. C'était aussi le but. Par exemple, la France Insoumise ne présentera pas de liste, même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément d'accord, peut-être, avec ce qu'on a fait au printemps marseillais. En tout cas, il n'est pas contre sur la majorité des secteurs, sauf dans le 13-14, j'imagine qu'on reviendra dessus. Mais en tout cas, nous, justement, on fait ce pari de ne pas mettre les logos, et je crois que les électeurs, de ce que je vois sur le terrain, le comprennent, l'identifient.
Jean-Luc Mélenchon, vous venez d'en parler, vous êtes sa suppléante, c'est pas rien. On vous présente d'ailleurs, logiquement, comme la suppléante de Jean-Luc Mélenchon. C'est possible ça aussi? Vous allez mettre en avant cette étiquette-là? C'est plutôt un atout ou ça peut être une difficulté?
Non, moi j'ai mon autonomie dans cette campagne. On s'est mis d'accord pour que, je vais pas sans cesse me présenter comme la députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Peut faire référence à ma fonction de députée suppléante, d'ancienne élue écologiste. Mais moi, je tiens bien à affirmer mon parcours original, ma position dans cette campagne. Je suis connue aussi pour ça. Et d'ailleurs, quand je suis devenue la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, c'était parce que j'apportais quelque chose de différent. Je venais de l'écologie, effectivement. Je suis quelqu'un de gauche, tout le monde le sait, la gauche et l'écologie. Et donc finalement, je reste ce que je suis dans cette campagne. Et j'ai beaucoup d'insoumis avec moi qui seront sur les listes. Mais nous, on joue le jeu de ce dépassement. Et c'est tout justement, c'était aussi une démarche qui était portée par la France Insoumise, de faire du neuf et de pas faire la soupe au logo. Et quelque part, je me sens bien dans la continuité de ça, de faire ce type de liste aux européennes avec ma personnalité et ce que j'ai à dire en tant que candidate.
Jean-Luc Mélenchon, certains semblent, qui clive un petit peu. Alors, il a rassemblé beaucoup de monde et à Marseille en particulier. Et on a l'impression qu'il est dans une phase où ce personnage clive. Alors certains regrette son manque d'implication dans la donne marseillaise et d'autres disent tant mieux.
Dès que Jean-Luc Mélenchon a été élu député, je suis témoin que beaucoup de Marseillais venaient le voir en lui disant « Alors, c'est pour quand la mairie ?» Je peux témoigner que ça l'a un petit peu déstabilisé. Il a pu peut-être y penser, mais enfin très vite, il a fait comprendre que jamais il se présenterait en réalité à la mairie de Marseille. Après, dans la communication, ça a pris plus de temps. Mais lui, il reste le député, il est attaché à sa fonction de député, de personnage national. Et donc, je dirais que pour moi, c'est pas une surprise. Voilà, il avait décidé de pas s'occuper des municipales et de laisser finalement chacun trouver sa place.
Mais par contre, est-ce que vous regrettez ou est-ce que vous espérez peut-être, est-ce que c'est à venir, un soutien, une présence un accompagnement, ou alors non, il a vraiment décidé de pas du tout se mêler de ça?
Je pense qu'il a décidé de ne pas se mêler de ça. Et comme je vous le dis, moi je suis dans cette aventure du printemps marseillais, vous savez, dans le premier secteur. Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis coutumière du fait, mais moi je suis quelqu'un qui suis un peu sans frontières, je suis assez éclectique. Donc je vous dirais que je suis plutôt contente, dans mes équipes on est déjà tout mélangé, le graphiste est communiste, j'ai un jeune homme de génération, j'ai plein de candidats citoyens qui sont nulle part, j'ai un socialiste avec qui je m'entends très bien, j'ai voilà des candidats qui arrivent en politique, qui sont de sensibilité écologiste, et moi je me régale de ce melting pot. Donc je pense que voilà, on est grand, on est adulte quand même. Donc ce qu'il faut aussi montrer, c'est que je crois aussi qu'il faut montrer à Marseille que des personnalités de Marseille et marseillaises sont capables aujourd'hui aussi de se prendre en charge et de changer la politique à elles toutes seules. Et ça aussi, je veux dire, je pense que dans les réactions qu'on a eues, c'est que si vous prenez Benoît Payan ou moi, je dirais qu'on a entre 40 et 50 ans. Peut-être un peu plus jeune, voilà. Et je crois aussi que c'est un changement de génération. Et c'est comme si, voilà, il fallait toujours que les plus anciens soient toujours là à se disputer. Monsieur Menouti, Jean-Luc Mélenchon, Samia Ghali, ils sont toujours là, Madame Carlotti. Mais non, voilà, il faut passer la main maintenant. Il faut nous laisser faire et changer cette ville.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que dans le mouvement gazeux, il y a de l'eau dans le gaz, hein, entre la suppléante et le député, entre Sophie Camard et Jean-Luc Mélenchon? Vous en êtes à ce point-là ou...
Non, non, non. Vous savez, en politique, on peut avoir des divergences sans que ce soit explosif. Hein, donc on a acté assez vite. Voilà, mais bon, vous avez vu aussi qu'il n'y a pas de déclaration tonitruante contre ce que je fais non plus. Donc je crois qu'il laisse sa chance aussi à ce qu'on fait, et puis on verra bien au résultat.
Alors, on l'a dit rapidement dans le portrait, il y a eu une attente très importante dans la foulée peut-être des événements de la rue Noailles, des états généraux de l'urgence sociale qui ont lieu à Marseille, et d'une volonté de dépasser, peut-être d'une traduction politique de quelque chose qui s'est passé dans cette ville, au niveau des collectifs, des citoyens, des gens qui n'étaient pas forcément encartés, et peut-être un débouché électoral. Beaucoup d'attentes, et peut-être beaucoup de déceptions aussi, parce que beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, par exemple, qui considèrent que le printemps marseillais, à travers ces 8 têtes de liste, apporte un affichage qui est finalement assez classique, puisque les 8 têtes de liste, ce sont des gens issus des mouvements politiques de la gauche et des écologistes?
Alors, on n'avait jamais annoncé que les têtes de liste sur le 50-50 citoyens politiques, c'était annoncé sur toute la liste, et aujourd'hui on fait même mieux, parce que vraiment on a plus de candidats citoyens que politiques au global.
Là, donc, vous parlez sur les 303.
Sur les 303, mais même sur tous les hauts de liste, on a quand même eu 400 candidatures citoyennes. C'était d'ailleurs, vous savez que c'est très difficile de trouver 303 noms pour se porter candidat sur toute la ville pour n'importe quel mouvement politique. Et nous, on a eu cette chance de cet élan citoyen vraiment qui a existé. Ça nous a vraiment facilité la tâche, et on a de très belles candidatures grâce à cet appel à candidature citoyen. Donc après, c'est vrai que pour porter des listes, il y avait quand même une autre promesse du printemps marseillais qui est plutôt incarnée par ces têtes de liste, qui était de rassembler la gauche dans sa diversité. Donc c'est vrai qu'il fallait la composante écologiste, insoumise, socialiste, communiste. Il fallait aussi, et ça sur le terrain, on a la promesse citoyenne qui est là et qu'on porte sur nos listes, et on a aussi cette promesse du rassemblement de la gauche. Donc c'est ce rassemblement de la gauche, il se voit sur les têtes de liste, et ensuite dès qu'on rentre sur les numéros 2 et suivants, eh bien il y a ce mélange, hein, ce dépassement qu'on a annoncé. Donc je dirais qu'il faut équilibrer les deux annonces qu'on a faites entre rassembler la gauche et puis y mettre tout ce qu'on connaît aujourd'hui de nécessaire, c'est-à-dire l'écologie, la citoyenneté, le renouveau des candidatures. Au global, franchement, sur nos listes, il y a très peu d'élus sortants, et on va vraiment, comme on va gagner, renouveler complètement le personnel politique de cette ville.
Il n'y a pas d'entourloupe sur votre liste, par exemple. Est-ce que les gens issus des organisations politiques les plus aguerris sont pas tous devant et les autres derrière?
Non. D'abord, vous savez, si on a fait ce rassemblement, c'est parce que tous les partis politiques sont dans les choux. Il faut pas croire qu'ils ont beaucoup de militants, beaucoup de candidats. Et il y avait vraiment besoin de cet élan citoyen pour arriver à faire des listes aux municipales. Vous savez, vous prenez les scores aux élections... Il n'y a pas de scoop. Les partis politiques existants sont mal en point. Voilà. Je voulais vous revenir aussi sur ce que vous avez dit par rapport à l'espoir des états généraux et du mouvement social. Moi qui ai participé aussi un peu à tout ça, je vendrais pas l'idée effectivement que le printemps marseillais n'est surtout pas le prolongement de ces mobilisations sur Noailles et les états généraux. Les états généraux, il y a eu la discussion qui était très clivante, hein, elle aussi au sein des états généraux, sur faut-il être candidat, faut-il se présenter en politique. Et si vous vous souvenez bien, les états généraux n'ont pas tranché, c'était déjà un sujet polémique. Hein, est-ce qu'on reste dans le contre-pouvoir ou est-ce qu'on veut le pouvoir? C'est toujours ce fameux débat. Et donc, à l'issue des états généraux, il a été dit, bah, chacun verra ce qu'il peut faire. Certains resteront dans le contre-pouvoir et certains seront candidats. Donc moi je dirais, parce que on se fait aussi, je suis pas là non plus pour récupérer les événements de Noailles, le collectif du 5 novembre, pas du tout. Et je suis pas là pour dire que nous sommes l'émanation de ces mobilisations-là. Je pense que nous, notre rôle, il est déjà de dire, de redonner du crédit à la politique et à la gauche. Et je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir encore beaucoup de défiance, de méfiance. J'oublie pas qu'à Marseille, on a 10 points de moins que la moyenne nationale sur les inscrits et sur la participation. Donc on est sur cette défiance vis-à-vis de la politique. Je crois qu'il faut y aller pas par pas et en tout cas déjà redonner du crédit à la démarche. Et je sais que nous serons attendus si nous gagnons. On va sans doute déclencher beaucoup d'attentes et il faudra déjà qu'on montre par nos actes que tout le monde a eu raison de voter pour nous, bien sûr.
Alors on l'a dit aussi, mais donc le tableau n'est pas complet parce que Europe Écologie Les Verts a choisi donc une candidature autonome. Mm-hmm. Vous êtes vous-même issu donc de ces rangs, hein, de l'écologie, on l'a rappelé. Qu'est-ce qui s'est passé là alors on est l'émission est enregistrée en différé, hein, ouais. C'est-à-dire que quand les gens l'écoutent là sur les ondes de Radio Grenouille, les listes sont déjà déposées. On est à 48 heures du dépôt de ces listes.
Oui,
c'est trop tard.
Alors non, parce qu'alors hier, il y a eu un petit événement, c'est que dans le 15-16, la tête de liste Lydia Frenzel a rejoint le printemps marseillais, la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts et d'autres candidats d'Europe Écologie Les Verts ont fait la fusion finalement, avant le premier tour, au lieu d'attendre le second tour. Ce qui me paraissait moins raisonnable, on aurait dû réussir à faire ça dans tous les secteurs. Hein. Moi, je viens d'Europe Écologie Les Verts, je comprends toujours pas pourquoi il y a cette division. Il y a un papier de cigarette qui nous sépare, voilà. Je crois qu'on hystérise le débat. Je crois pour avoir discuté avec Europe Écologie Les Verts qu'ils appliquent surtout une consigne de visibilité nationale, qui, à mon avis, n'est pas adapté sur Marseille, où on a d'autres enjeux qui sont l'intérêt général de notre ville et de virer le système Gaudin. Et puis, je crois aussi qu'ils n'y croyaient pas. Ils pensaient qu'on n'y arriverait pas, comme beaucoup. Beaucoup se disaient, le printemps marseillais, justement, ce ne sont que quelques personnalités qui vont s'en prendre plein la figure par leur parti, et les partis feront en sorte que ça ne se produise pas, qu'on n'y arrive pas.
Alors, Sébastien voilà. Barle, qui était dans le studio à votre place, dit, bon, le printemps, c'est la vieille union de la gauche, c'est...
Avec ce que je viens de vous dire, bonjour la vieille union de la gauche, on s'en est pris plein la figure. Franchement, non, enfin, je crois que maintenant tout se sait par les réseaux sociaux, par les mails. Je crois que non, ce qu'on a fait, ça a dérangé tout le monde. Je crois qu'on a bien secoué le cocotier, me semble-t-il, et ça n'a pas été une balade de santé. Si on avait fait la vieille union de la gauche, les appareils se seraient rencontrés, ils auraient signé un programme bien classique, ils auraient négocié leurs candidats sur les listes. On n'aurait pas attendu la dernière minute pour avoir notre tête de liste qui n'était pas celle que tout le monde croyait. Il n'y aurait pas eu autant de suspense sur nos têtes de liste de secteur. Alors bonjour la vieille union de la gauche. Hein. Je pense que c'est pas ça du tout.
Les mots sont assez forts là sur le cas de Lydia Frenzel que vous venez de citer. Sébastien parle de déstabilisation, de pression des vieux réseaux, de l'ombre de Guérini, de Sylvie Andrieux.
Bah oui, je crois qu'on sort les vieux fantômes pour justifier de son existence séparée. Mais on a parlé tout à l'heure de Samia Ghali, de Patrick Menucci. Alors on peut citer Sylvie Andrieux pour pas citer Samia Ghali et Patrick Menucci qui sont plutôt proches d'Europe Écologie Les Verts dans cette aventure. Moi, j'ai pas envie de polémiquer parce que on doit se rassembler. Hein. Au final, j'espère ce que les électeurs ils attendent maintenant. c'est qu'on se rassemble, si c'est pas au premier tour, c'est au second. Donc à quoi ça sert d'hystériser le débat comme ça, de sortir des fantômes, de nous traiter de tous les noms? Moi, je pouvais regarder mon compte Twitter ou autre, je ne polémique jamais. J'espère qu'on va se retrouver au second tour et que toutes ces bêtises vont cesser dans l'entre-deux-tours.
Alors Michel Rubirola est la tête de liste, donc pour l'ensemble des... De la candidature pour la mairie centrale est issue, rappelons-le, donc d'Europe Écologie Les Verts. Elle est élue au conseil départemental. Ce choix-là, c'est un gadget ou qu'est-ce que ça dit de la place de l'écologie dans la démarche du printemps?
Qu'elle est indispensable de partout maintenant. Hein. Vous avez vu que même Bruno Gilles se dit
il a écologiste. Des écologistes avec lui.
Il a fait sensation avec son affiche verte. Donc oui, ça veut dire aussi que on a été trop loin dans les bagarres entre notamment la France Insoumise et le Parti Socialiste. Hein. Tout le monde a vu ça par communiqué de presse interposé et déclaration tonitruante. C'était très pénible à vivre tout ça, et finalement on était dans l'impasse en fait entre cet affrontement entre la nouvelle gauche qu'incarne la France insoumise, quoi que certains ne veulent plus du mot gauche même, et puis certains issus du PS, mais nous n'avons pas tout le PS avec nous puisqu'il n'y a pas Menouti, Galli, etc. Et finalement, à trop se disputer, ni Benoît Payan ni moi, finalement, n'étions plus qualifiés pour être candidats à la tête de liste, et ça devait se terminer par une troisième solution. Et c'est Michel Rubirola qui, finalement, est un bon choix, parce que quand nous l'avons annoncé, quand nous avons tous les deux, Benoît Payan et moi, retiré notre candidature à la tête de liste, ça a déclenché, à ce moment-là, une énorme vague. C'est là qu'on a eu toutes les candidatures citoyennes et une grande dynamique qui s'est déclenchée.
L'écologie, pour Marseille, eu égard aux urgences sociales et aux fractures de cette ville, est-ce que c'est le paradigme, un bon paradigme pour cette ville? On se dit souvent l'écologie, c'est bien, c'est bon pour alors, Paris, pour les bobos, pour...
Ouais, alors justement, j'allais vous dire, l'écologie, oui, mais avec la gauche. C'est-à-dire que pas d'écologie sans le social, surtout ici. C'est-à-dire que, effectivement, je pense pas qu'on soit une ville calibrée au niveau de Lyon, Paris, Nantes, Strasbourg, on le sait, qu'on est différent. On sait qu'on n'est pas le même type de métropole, qu'on a beaucoup de pauvreté, c'est une ville très populaire, où on n'arrive pas comme ça avec des dispositifs, ou en tout cas faut pas arriver avec des dispositifs trop techniques, trop que les gens comprennent pas, des mesures qu'on n'explique pas. Bon, il n'y a pas qu'à Marseille qu'il faut faire ça, mais particulièrement dans cette ville, il faut beaucoup de concertations qui n'existaient pas. Il faut une écologie populaire. C'est pour ça que je pense que dans notre démarche, il y a de l'écologie, mais il y a l'écologie avec la gauche. Et c'est ça qui fonctionne. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut faire pour Marseille. Sinon, je crains une écologie un petit peu hors sol qui soit même contestée à la fin si on ne l'appuie pas sur la vie quotidienne des gens ici.
Et concrètement, ça donne quoi dans le programme, les mesures phares
Par exemple, nous, on n'annonce pas de grands projets type forêt urbaine sur le Vieux-Port ou sur le parc Borély ou des choses comme ça. Ça veut dire que, d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas que des écologistes avec nous, on va avoir une démarche finalement beaucoup plus modeste et concrète. Donc ça va être par exemple l'écologie du quotidien. Ça veut dire que par exemple moi sur mon secteur, j'habite une rue qui est pionnière de la végétalisation, je pense que ça, il faut partir de là. C'est-à-dire qu'est-ce que les citoyens de cette ville, y compris contre la mairie parfois, ont commencé à faire et comment on travaille avec les habitants. Vous voyez, le zéro plastique, c'est de la concertation avec les commerçants. Ça existe à certains endroits, à Noailles ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une écologie par en bas, une écologie modeste avec des objectifs concrets et qui soit visible avec des résultats immédiats. Alors c'est sûr que du coup, nous, on va moins communiquer sur des grands projets avec des beaux dessins, mais beaucoup plus sur l'écologie avec la concertation et quelque chose du quotidien avec les habitants, qui part de l'existant aussi pour avancer.
Marseille a des retards considérables alors, en termes de mobilité douce, en termes de...
Ça après, n'en parlons pas. Ça, effectivement, j'ai participé à tous les débats sur le vélo. Je trouve que pour tout ce qui est mobilité active, douce, comme je dis toujours, finalement, ça coûte pas si cher. On pourrait presque commencer par là, tellement on pourrait changer le visage de la ville, de redessiner finalement des voies de circulation pour les piétons, les cyclistes et les petites voitures électriques. Enfin, toute cette mobilité d'aujourd'hui, finalement, en complément de tout l'investissement, bien sûr, qu'il faut continuer à faire sur les infrastructures dites lourdes, c'est-à-dire tramway, métro, mais dont on sait qu'ici, ça prend des années à être réalisé. Et du coup, comme c'est très difficile à faire avancer, même s'il faut être volontariste là-dessus, nous, on priorise l'axe nord-sud, hein, notamment un axe structurant nord-sud, eh bien, il faut que la faiblesse de cette ville se retourne en force et que finalement, on avance peut-être sur ces formes innovantes de mobilité qu'on a aujourd'hui, qui peuvent peut-être correspondre à l'esprit marseillais aussi, hein, l'autopartage, le covoiturage, des petites... vous voyez, il y a des endroits au fin fond du 7e, vous ne mettrez jamais un bus, il ne passe pas dans les rues, quoi. Et c'est bouché par la bagnole. Donc, il faut être innovant sur des... Les gens nous demandent beaucoup des petites navettes électriques, des petites diablines, des choses comme ça, un peu amusantes peut-être, un peu nouvelles, et peut-être qu'on pourrait avancer aussi là-dessus. En tout cas, il y a un gros enjeu de faire reculer la voiture, et on a un gros enjeu sur la pollution de l'air, puisque pendant très longtemps, la seule politique publique écologiste du maire, c'était le Mistral.
Alors, il y a eu quand même des choses faites au niveau de la majorité sortante dans votre secteur. Il y a la fameuse piétonnisation en cours, ouais, de la Canebière, le Vieux-Port. Ouais. Vous verrez ça comment? Peut mieux faire.
Ça aurait dû être fait depuis 10 ans, et du coup, ça se fait un petit peu laborieusement. C'est un petit peu trop bétonné pour moi. Ça manque d'arbres, et puis surtout nous on peut pas concevoir, je vois, du coup j'habite pas loin, hein, ça se limite souvent à on change le revêtement du sol et point, quoi. Alors là, effectivement, je trouve ça plutôt bien, hein, du coup, qu'on piétonnise le plus loin possible. Mais après, il faut pas séparer ça de la concertation avec les habitants sur le bâti et les immeubles et le logement. Il faut pas séparer ça de la concertation avec tous les équipements culturels qu'on a dans ce secteur. Parce que derrière, il faut retrouver la vocation culturelle de la Canebière Vieux-Port. Et donc, il faut pas oublier l'humain. Et tout simplement, et pas dire on va faire d'un côté la piétonnisation, d'un autre côté il y a le problème du logement, et puis la culture, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans cette ville, le problème c'est qu'on cloisonne tout, et on a du mal à avoir des projets d'ensemble concertés qui finalement donnent du sens à la fin, et pas simplement juste un joli dallage.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Alors, une tradition dans cette émission, la chanson de l'invité, et on va écouter Le Courage des Oiseaux de Dominique A.
Dieu, que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, c'est ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Le courage des oiseaux. Est-ce qu'il faut entendre un message politique dans cette chanson? Alors, un c'est une histoire peu. Qui finit mal.
ouais, non, mais c'est le courage des oiseaux. J'ai toujours trouvé ça beau comme phrase, parce que le courage, c'est une valeur de force et les oiseaux sont fragiles. Il y a un message un peu écologique, je trouve, aussi là-dedans. Et puis, c'est vrai que dans cette aventure politique ici à Marseille, il faut le courage des oiseaux, je peux vous le dire aussi.
D'accord. Bon, alors pour faire peut-être la transition avec l'écologie, je vais citer Florent Houdemont, délégué régional de la Fondation Abbé Pierre, qui trouvait qu'on plantait beaucoup d'arbres dans cette campagne et qui, avec un collectif de la société civile, 28 organisations, interpelle les candidats sur l'urgence du logement et sur le fait de la nécessité de faire du logement et d'un logement digne pour tous, un enjeu central de cette campagne. Mmh. Il y a un appel, il y a 14 engagements, 60 mesures proposées. Vous avez vu cette interpellation, et qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, j'ai bien évidemment répondu à cette interpellation par des actes, c'est-à-dire que mon binôme dans le premier secteur s'appelle Patrick Amicot. Je l'ai choisi parce que c'est un expert du logement, de l'urbanisme et qui travaille dans le logement social, dans des grands groupes publics, et que j'espère qu'il mettra, je suis sûre, qu'il mettra toutes ses compétences au service notamment du périmètre de rénovation immobilière dans le centre-ville, qui va être quelque chose de très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, nous avons sorti nos 20 mesures d'urgence sur le logement la semaine dernière, sous forme de tract, diffusé à 10 000 exemplaires dans tout le secteur. Il est très lu attentivement. Et j'ai communiqué effectivement ces mesures, notamment à la Fondation Abbé Pierre, à tous ceux qui nous avaient interpellés. Vous imaginez à quel point dans le premier secteur, c'est une priorité absolue de répondre à cette crise du logement.
Votre secteur est marqué par cette histoire.
Oui.
Il y a un avant, un après.
Oui, il y a un avant, un après, bien sûr, mais en même temps, donc c'est un événement fondateur, et je crois que tout le monde sait qu'il y en a pour des années et des années. L'essentiel pour nous, ça va être de combiner l'urgence et le long terme, c'est-à-dire que l'urgence, ça va être de s'attaquer en priorité aux travaux à faire dans tous les immeubles en péril, d'agir en justice contre les marchands de sommeil quand il le faut, et puis d'accompagner. Moi, je suis propriétaire occupante dans ce périmètre. J'ai raconté que j'avais fait l'objet aussi mon immeuble d'une enquête publique, et on s'aperçoit à quel point les propriétaires, quand ils sont de bonne foi, hein, parce que ceux de mauvaise foi, il faut pas hésiter à les sanctionner, mais il n'y a aucun accompagnement ni information des aides de l'ANA, on appelle ça, ce sont des aides pour réhabiliter, et moi dans mon programme j'ai mis tout de suite en urgence tout ce qui serait permanence d'accès au droit, à l'information pour le logement, les propriétaires, les locataires, les financements disponibles, parce qu'on a aussi un peu l'impression que certains vont profiter de ce malheur pour faire de la spéculation immobilière, obliger les gens à vendre, et tout ça paraît assez quand même sauvage à ce jour. Donc je crois qu'il va falloir beaucoup d'accompagnement, de concertation, agir en justice quand c'est nécessaire, et puis après retrouver du calme, parce que toute cette crise des délogés, elle est terrible, c'est des milliers de personnes, et c'est pas fini. Et donc faire respecter le droit, le calme, et arrêter tous les abus.
Alors, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une nouvelle révélation d'un élu.
Oui.
Le dernier, c'était Jacques Ansker, qui n'est pas élu, mais qui était coordinateur des Assises de l'Habitat organisées par la Métropole, et Martine Vassal, membre du comité de soutien de Martine Vassal, et qui loue des logements indignes. Fructus et son mari.
Oui, d'ailleurs, on nous a, à très juste titre, interpellés sur nos propres patrimoines. Oui. Donc, tous les candidats du printemps marseillais, normalement, moi, je l'ai faite. En tout cas, on doit tous le faire. On a fait notre déclaration de patrimoine en bonne et due forme. Et je comprends qu'aujourd'hui, au-delà, je dirais, parce que le problème du logement, vous savez, c'est que nous, on a fait les 20 mesures, mais on arrive vite dans du technique pour les gens. C'est un sujet à la fois très émotionnel. Et quand on arrive sur les propositions, c'est très technique. Qu'est-ce que c'est un plan de relogement anticipé, avec des sigles, etc. Et je crois que finalement, les gens aussi nous attendent sur ce dégoût, voilà, de la municipalité en place et tout, on a l'impression qu'il y a des, il y avait des systèmes de, bien sûr, de connivence et de, tout le monde profite de cette rente immobilière sur le dos des plus pauvres. Et donc, d'où cette attente de renouveler le personnel politique et une attente d'éthique et qu'on soit dans la transparence, qu'on déclare quand il y a des conflits d'intérêts, qu'on déclare nos patrimoines, qu'on sache exactement à qui on a affaire et qu'on arrête ce défilé de d'informations dans la presse sur des élus qui ont profité du malheur des autres.
Donc c'est un travail journalistique, hein, c'est le consortium notamment auquel participe l'ORAVI avec Mars Actu, La Marseillaise, Mediapart. On peut parler aussi de Frédéric Bousquet, élu dans la majorité de Gaudin, qui a fait une plus-value de 114 000 euros en cédant une ruine à Marseille Habitat.
Eh oui, d'ailleurs.
Qu'est-ce qui garantirait parce qu'il y a effectivement un dégoût, un rejet. C'est une tendance aussi qui a été portée par les insoumis, une forme de dégagisme. Faut tous les virer. Et peut-être on peut aller.
On la retrouve aussi au printemps marseillais. C'est des choses que j'entends beaucoup. Vous savez, cette sensibilité dite insoumise, elle est, comme disait Jean Mélenchon, elle est gazeuse. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir au printemps marseillais, des lecteurs, etc., qui sont dans cette sensibilité de dégagiste. C'est on vote pour vous. Il faut vraiment finir avec la municipalité actuelle. Hein.
Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour convaincre ces gens de revenir aux urnes, de ne pas vous regarder, pour ne pas qu'ils vous regardent, pardon. Donc, comme les autres, la transparence, comme demande Emmaüs Pointe-Rouge, par exemple, en disant, on ne loue pas, ou si on loue, on loue des logements décents, etc.
Oui, voilà, c'est important déjà ça. Et puis, moi, par exemple, sur mon tract de secteur, j'espère que les gens vont regarder qui sont les candidats. Moi, je les ai présentés hier. Ils incarnent tous des thématiques, ils incarnent tous des engagements, ils sont nouveaux. Ce souffle nouveau, voilà. Et puis ensuite, il faut pas en rester aux personnes, parce que on est aussi dans des effets de système. Et donc on sait que à Marseille, on est au degré zéro aussi de la démocratie locale, du contrôle citoyen. Donc on a aussi, je pense, quand on me demande toujours dans les 100 premiers jours, vous feriez quoi ? Moi, je ferai ouvrir toutes ces permanences d'accès aux droits et d'égalité aux droits. Et très vite, ce qu'on peut mettre en place, c'est des systèmes de concertation, de budget participatif, de changer ce qu'on appelle souvent la gouvernance. J'aime pas trop ce terme, mais qu'on donne aussi les moyens d'être contrôlé par la démocratie locale. On n'applique même pas la loi ici sur les conseils de quartier. Le budget participatif, ça existe partout, sauf ici. Donc de réorganiser les services, de redonner du sens aux services municipaux. Il y a beaucoup de choses à le dialogue social à la mairie. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Donc, je crois aussi qu'il y a les personnes, le contrôle des personnes en tant qu'individu, mais il y a aussi le système et les garde-fous, démocratiques à mettre en place dans cette ville.
En termes justement de rénovation, de gouvernance, de garde-fous démocratiques, est-ce que vous allez innover ? Est-ce qu'il y a des mesures fortes aussi défendues par le printemps pour changer les pratiques ?
Oui, celles dont je viens de vous parler. Je vais pas les répéter, mais par exemple, alors on a fait aussi un petit pari dont je savais qu'il serait pas simple, mais on a mis en place dès la campagne la plateforme participative Décidim, qui a marché d'ailleurs un peu, mais qui tourne toute seule avec des tas de citoyens qui contribuent dessus. Mais l'idée, c'était de montrer dès la campagne qu'on pouvait faire ça. Donc moi, par exemple, je trouve que c'est un très bel outil au niveau d'une mairie de secteur de faire cette plateforme participative Décidim. C'est un système qui est né à Barcelone, en fait. C'est qu'on peut réutiliser après au niveau des collectivités locales et qui permet de remonter les boîtes à idées, de suivre, de faire du suivi de propositions, de faire voter les citoyens. Et ça, je sais qu'à Marseille, on peut pas faire du numérique comme ça en l'air et qu'il faut à chaque fois l'adosser à des réunions physiques, à du relationnel, à du participatif. Donc je pense qu'il y a des tas d'outils aussi qui permettent aujourd'hui de voir les choses d'une manière un peu plus moderne que simplement d'ailleurs le rien du tout qu'on a aujourd'hui.
Alors face à vous, Martine Vassal, mais aussi Yvon Berland, joue beaucoup la carte du sérieux, de la gestion, en disant on s'improvise pas maire d'une ville de la dimension de Marseille, il faut être capable de le faire. Tous les enjeux, tous les chantiers nécessitent de lever des fonds. Vous répondez quoi à cette approche-là ? Est-ce que le printemps marseillais est prêt à prendre en main ces enjeux, à lever des moyens nécessaires à la ville ?
Bah, bien sûr, on sait très bien, on sait tous hein, que la ville de Marseille se complaît dans la victimisation de tout le monde est contre nous, c'est pas de notre faute, et qu'on sait très bien que sur des tas de dispositifs, il y a des moyens financiers qu'on ne va pas chercher, que ce soit de l'État, de l'Europe, des autres collectivités, donc c'est qu'on a beaucoup à faire. Mais maintenant, moi je voudrais dire, il faut pas voir ce sujet de la compétence, toujours pareil, par des politiques qui se mettent au-dessus des gens, et je pense que nous, on apporte une dynamique citoyenne qui peut créer de la confiance. Je veux dire, vous pouvez toujours avoir la vérité infuse, vous pouvez toujours savoir le bon trajet de tramway qu'il faut faire, vous pouvez toujours savoir avec précision le niveau d'emprunt que vous pouvez faire ou pas faire. Si vous n'avez pas la confiance des citoyens, ça sert à rien. Voilà. D'où cette démarche peut-être un peu plus modeste que nous avons. Et je trouve que du coup, Michèle Robirola, en fait, je me suis aperçue qu'elle déclenchait une certaine adhésion parce que c'est pas une professionnelle de la politique telle que les autres, justement. C'est pas Monsieur Berland, c'est pas Madame Vassal. Elle affiche certaines, même parfois, un petit peu d'hésitation. Et ça plaît aux gens. Elle est médecin et elle arrive avec la force de ses convictions, son honnêteté. Les gens voient bien que c'est pas une professionnelle, qu'elle se destinait peut-être pas à ça au début et que maintenant elle rentre dans le rôle. Et ça marche aussi. Et elle peut être entendue et il y a aussi une demande aussi de politiques, d'hommes et de femmes politiques différents, qui leur peut-être soient plus proches, qui soient moins des experts qui savent tout, comme Monsieur Macron qui est arrivé comme ça, hein, qui a dit, moi, voilà, j'arrive, je sais tout. Bah, regarde le résultat. Hein. Un mouvement social d'ampleur par an et ça dure des mois.
Alors prenons notre dossier central à Marseille, les écoles. Il y a eu une mobilisation autour pour contrer un projet de rénovation à travers un partenariat public-privé pour rénover 34 écoles. Hein, donc avec une alliance entre des élus justement et des collectifs, des associations de parents d'élèves qui a pratiquement amené un résultat positif au niveau avec des recours juridiques. Mais bon, résultat, il faut les rénover ces écoles, il faut de l'argent.
Et d'ailleurs, vous faites bien de citer cet exemple qui est un peu une des matrices de notre rassemblement, parce qu'on avait plusieurs personnalités qui sont dans ce collectif, qui ont participé à la naissance du printemps marseillais. Et je voulais rajouter que c'est un très bon exemple qui montre que l'expertise, elle est citoyenne. Parce que là, c'est ce collectif qui a su déposer un recours et qui a gagné contre la ville de Marseille. Donc vous voyez que les compétences, elles ne sont pas toujours en haut, il y en a aussi à côté et chez les citoyens. Du coup, aujourd'hui, on a montré que ce PPP était, c'était terrible, 1 milliard d'euros pour 30 à 40 écoles à détruire et reconstruire. C'était deux fois trop cher par rapport à ce qu'on pourrait faire finalement avec des appels d'offres beaucoup plus courants et normaux. Et donc nous, on évalue sur le mandat la possibilité de faire un grand plan de rénovation des écoles d'au moins 500 millions d'euros. Si on le double sur 10 ans, ça peut aller jusqu'à 1 milliard. Voilà, je peux vous dire qu'on a regardé. Ça peut rentrer dans les budgets d'investissement. C'est une question de priorité politique de mettre le paquet sur les écoles qui sont aujourd'hui finalement l'une des compétences essentielles de la ville, sachant qu'il y a beaucoup d'autres compétences qui sont transférées à la métropole. On est attendu sur les enfants. Ce qui fédère tous les Marseillais finalement, c'est de prendre soin des enfants. La petite enfance, les écoles, l'accès à la culture et au sport. Voilà, ça c'est les compétences de la ville. Il faut mettre le paquet sur cette compétence et on a les moyens de le faire.
L'espoir est là, c'est votre slogan. Alors est-ce que vous pensez réellement être en capacité de gagner cette élection ?
Bah, je trouve qu'on est bien parti. Je pense que quand on voit Madame Vassal qui perd ses nerfs et qu'on sait qu'il y a certains sondages qui seraient pas publiés parce qu'ils sont mauvais, tant d'affiches collées pour finalement un score qui a l'air de baisser dans les sondages. Nous, je trouve que, en tout cas, on a un très bon accueil sur le terrain. Je pense qu'on est aujourd'hui la deuxième ou troisième force en fonction des secteurs de politique assez municipale et qu'on peut créer la surprise et qu'on est parti pour créer la surprise.
Cette histoire de sondage, alors nous on fait partie de ceux qui n'aiment pas trop les sondages et en même temps on constate comme tout le monde que lors des dernières élections municipales, à la même époque, il y avait déjà eu 8 sondages, il n'y en a qu'un.
Non, mais pourquoi ?
Qu'est-ce qui se passe alors ?
Eh bien, comme nous ne sommes pas une vieille union de la gauche, nous n'avons pas les partis et nous n'avons pas beaucoup de budget et donc un sondage ça coûte très cher à payer. Et nous, nous allons nous contenter du plafond remboursable. Nous empruntons par nous-mêmes ce qu'il faut pour les listes. Et nous n'avons pas les moyens de payer un sondage, tout simplement. Et je pense que peut-être on n'est pas les seuls. Je crois qu'on a affaire à des...
Vous pensez que Martine Vassal a des problèmes budgétaires pour faire des sondages ?
Elle a l'air largement d'avoir le financement possible jusqu'au plafond des dépenses. Vous savez, alors c'est un peu technique, mais il y a le plafond remboursable et le plafond des dépenses, c'est le double du plafond remboursable. Donc si vous avez un parti derrière vous, par exemple, ça peut financer au-delà du remboursement le double de cette somme. Donc je pense qu'elle est plutôt sur le plafond total que sur le plafond remboursable. On sait que c'est surtout la droite qui a les moyens de se payer des sondages. Et du coup, c'est ce qui vous explique, alors à moins que la presse le fasse, que nous, en tout cas, on n'en fait pas, on n'en fera pas. On est sur des campagnes aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas les seuls dans ce cas, beaucoup plus modestes, beaucoup plus courtes. Et vous savez, les règles de financement de la vie politique, tout... Elles sont assez sévères, hein, s'il y a eu un certain nombre d'affaires pour le montrer. Et on fait avec, et donc on n'a pas beaucoup de moyens, donc pas beaucoup de sondages.
Je pense à Europe Écologie Les Verts qui fait venir des noms, des figures nationales. Il y a Yannick Jadot, par exemple, qui vient à Marseille. Est-ce que vous allez jouer cette carte-là ? Est-ce que vous allez chercher des leaders, des figures pour finalement rendre un peu national l'enjeu marseillais ?
Ce qui est national, c'est la démarche qu'on fait. Dans notre comité de soutien, parce qu'on est les seuls à avoir publié un comité de soutien, il y a 150 à 200 noms. Mais c'est vrai que ce sont des noms de Marseille. Et pour nous, ce qui compte, c'est que ça vienne de notre ville. Ça recoupe ce que je vous ai répondu tout à l'heure sur Jean-Luc Mélenchon. Il y a Marie-Noëlle Lindemann qui est venue nous soutenir. Peut-être d'autres le feront. Mais je crois qu'on a envie un peu de créer la surprise par nous-mêmes au soir de ces municipales. Et plutôt que ce soit Paris qui vienne soutenir Marseille, j'ai plutôt envie que Marseille soit l'exemple pour toute la France et qu'on inverse un petit peu toujours la logique.
C'est pas une décision par défaut, une décision par
non,
économie.
Pas du tout. Non, parce qu'en fait, ça pose à chaque fois problème. Parce que si, alors après, hein, peut-être certains le feront, mais comme on est sur un dépassement des partis politiques et différentes sensibilités politiques, si vous avez un parti plutôt qu'un autre qui va montrer son soutien à notre démarche, ça va automatiquement déformer un petit peu notre rassemblement dans un sens plutôt que dans un autre. Donc c'est un vrai dilemme. Après, je vous dis pas que on refuse carrément les soutiens, ils seront tous les bienvenus, mais notre démarche de base, elle est marseillaise.
Alors à Marseille, il y a un autre enjeu, c'est celui de la présence, et ça ne date pas d'hier, de l'extrême droite, du RN, autrefois Front National, avec déjà un maire de secteur qui est membre de ce parti. Une envie chez certaines personnes de voir un front commun face à l'extrême droite, et finalement ça n'a pas lieu. Votre avis, votre réaction à ce jour là-dessus ?
En tout cas, j'espère que ce qui se passe dans le 15-16, parce qu'il y a les secteurs où le Front National a déjà une mairie, puis il y en a où il peut avoir une mairie, parce qu'il n'y a pas que le 13-14 en réalité. Hein. Si, soi-disant, il est presque à un quart des voix dans toute la ville, peut-être qu'il y a plusieurs secteurs.
Le 13-14, secteur emblématique, hein, celui de Stéphane Ravier,
voilà,
le sénateur, aujourd'hui dans les mains de sa nièce. Donc là, ça s'est pas fait. C'est un regret pour vous ?
Oui, c'est un regret. Voilà, je peux rien dire de plus. Si ce n'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la gauche marseillaise continue à chasser les fantômes plutôt qu'à se rassembler, à regarder l'avenir, et on continue à se disputer sur le passé. Voilà, j'espère que quand même la dynamique du printemps marseillais sur toute la ville va permettre malgré tout de permettre à la gauche de réussir d'aller jusqu'au second tour et puis à battre Stéphane Ravier.
Un mot quand même, parce que là il y a une liste Unir conduite par Mohamed Ben Saada qui est membre de votre mouvement,
ouais,
et qui a été soutenu par les instances parisiennes des Insoumis. Mon père est descendu à Marseille.
Comme vous le savez, moi je n'étais pas d'accord sur cette ligne-là. Je trouve qu'on aurait dû chercher jusqu'au bout l'unité. Si on a su le faire dans le 15-16, pourquoi dans le 13-14 on n'y arrive pas ? Donc moi je continue de ne pas être d'accord avec cette division.
Et puis, vous reproche de ne pas avoir joué le jeu, enfin pas vous personnellement, mais...
Écoutez, moi ça me fatigue, est-ce qu'on va sortir tous les appels ? Je veux dire, quand on nous accuse, nous, de mafieux, comment est-ce qu'on peut être unitaire ? Voilà, mais moi je suis pas dans la polémique. Je pense que maintenant je suis fatiguée de tout ça et que c'est aux électeurs de trancher. Voilà, puisqu'on défend le peuple parlera dans les urnes.
Et malgré tout, vous n'allez pas gagner cette ville seule. Il y a deux tours dans cette élection.
Oui.
Il va falloir se rassembler.
Mm-hmm.
Malgré tout, Dans le 13-14, vous pensez qu'au deuxième tour, vous allez être en capacité de vous réunir ?
Écoutez, moi, je ne suis pas dans le 13-14. J'espère que les noms d'oiseaux, le courage des oiseaux, hein, j'ai dit tout à l'heure, ça fait référence à ça aussi, les noms d'oiseaux. Il faut que ça cesse, parce que s'il faut effectivement battre le Front National, il faudra bien se rassembler à un moment donné. Donc, cessons les noms d'oiseaux. Voilà, moi, je souhaite m'en tenir là, faire ma campagne sur les projets, et puis convaincre les électeurs. Maintenant, c'est aux électeurs là, de nous aider presque à trancher tout ça et puis à nous faire réussir.
Et dans votre secteur, par contre, vous êtes aussi, vous êtes celle qui est face à Sébastien Barthes, tête de liste donc des écologistes, que vous connaissez. Vous étiez sur la même liste en 2014.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je ne polémiquais pas avec Sébastien Barthes. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je passe pas mon temps à envoyer des communiqués traitant les uns les autres de guérinistes. Enfin, c'est absurde. Et donc, j'espère que si on n'a pas pu faire la fusion du premier tour, on la fera tranquillement au second. Je crois que ce secteur.
C'est-à-dire que, pour parler très clairement, vous souhaiteriez que celui qui est ou celle qui est en tête au premier tour reste et celui qui est derrière fusionne.
Enfin. C'est des règles simples qui s'appliquent normalement pour des fusions de listes au second tour. Donc j'espère qu'on va avoir la sérénité de faire ça. C'est ce que les gens nous demandent déjà. Hein. Tout le monde a compris qu'il y aurait ces deux listes, que maintenant c'est acté. Les listes sont déposées. Donc la campagne est assez courte, que chacun aille chercher ses électeurs et puis qu'on se rassemble au second. Voilà, j'espère que ça va bien se passer.
Marseille est souvent présentée comme une ville figée, liée à de vieux mécanismes. On dit que Gaudin et on le documente, a lui-même hérité d'un système qui venait de Defferre. Est-ce que ça, on peut tourner la page de cette histoire-là ? Est-ce que
vous avez vu
que
comme c'est difficile, même au sein de la gauche, quand il n'y a plus rien, on continue à dire que le système est là alors qu'il n'y a plus rien. Donc ça me frappe énormément. Je m'y attendais pas. En fait, moi, je me disais, ça y est, on écrit une page neuve. J'ai été un peu trop optimiste, en fait. Je suis un peu trop optimiste parfois sur notre capacité à faire du neuf. Je pense quand même que là, il y a une chance historique quand même. Voilà, et c'est ce qui nous porte, nous. C'est ce qui fait qu'on se dépasse, c'est ce qui fait qu'on surmonte nos conflits internes. C'est que là, je crois que même les électeurs, les habitants sentent qu'on doit tous écrire une nouvelle page politique de cette ville. Voilà, faut vraiment qu'on tourne la page et qu'on mette Marseille maintenant comme capitale de la Méditerranée, qu'on la mette à la page du 21e siècle et puis qu'on soit tous vraiment heureux de vivre ici, en harmonie, tous ensemble, voilà, tout le positif qu'on peut avoir de cette ville et qu'on arrête la face noire. Certains s'y complaisent beaucoup quand même aussi. Maintenant, j'habite ici depuis 17 ans, j'ai appris à prendre aussi un peu de recul avec ça. Voilà, c'est le roman noir de Marseille. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt envie de développer le côté positif.
Vous avez décrit vous-même les moyens limités du printemps marseillais. Martine Vassal, elle pilote un budget de plus de 5 milliards d'euros annuels à travers les deux collectivités locales. Ouais. Alors théoriquement, les choses sont séparées.
Je crois qu'elle a cru un peu vite que les deux allaient fusionner. Donc hop, là, elle a mélangé un peu les finances d'ailleurs avec des subventions croisées dans les deux sens et avec la ville aussi. Mais non,
Vous aussi, vous relayez ces accusations de mélange des genres en disant il y a un souci qui pourrait même...
Par rapport à la campagne ou
par rapport à sa campagne par rapport au fait qu'elle utiliserait, c'est ce que disent un certain nombre de personnes, les moyens finalement du conseil départemental ou de la métropole.
Écoutez, en tout cas, c'est magique. Dès que des affiches sont collées, ça dure une heure, il y a des affiches de Madame Vassal absolument qui surgissent de partout, absolument en dehors des affichages libres, sur... faut avoir beaucoup de moyens et de personnel pour pouvoir faire ça depuis des mois, quoi. Et donc, tout le monde le sait, il y a des photos, c'est de notoriété publique.
On peut résister à une machine de campagne, de guerre comme ça. On peut créer la surprise face à...
Oui, parce que ce que n'a pas compris Madame Vassal, c'est qu'elle agace maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup de Marseillais qui sont assez mûrs avec ça, qui voient. Et elle exaspère tout le monde. Moi, je vois que plus elle affiche, plus elle énerve tout le monde. Donc, je pense que ça passe plus pour un signe de panique que pour un signe de sérénité. Et je pense que notre démarche à nous, qui est plus sobre, plus modeste, peut-être un peu plus, voilà, moins professionnelle, elle plaît aussi dans ce sens-là. Donc c'est peut-être une erreur aussi de temps politique, de ne pas comprendre, voilà, cette demande aussi qu'il y a beaucoup aujourd'hui de nos concitoyens, d'une certaine sobriété, d'une certaine modestie.
Je rebondis sur le thème de sobriété. La Chambre régionale des comptes, qui a produit un rapport très sévère vis-à-vis de la gouvernance et de la gestion de la ville, souligne aussi qu'il y a une dette assez considérable, avec elle est de 2000 euros par habitant, deux fois plus élevée que la moyenne des villes de comparables. Est-ce que c'est pas de toute façon, est-ce que ça va pas être très difficile de gouverner, de gérer cette ville et de l'administrer?
Alors,
si vous gagnez l'élection, comme vous pensez pouvoir le faire.
J'ai lu attentivement tout le rapport, j'en ai fait une petite note sur mon blog. Et ce qui me frappe, c'est tout le potentiel qu'on a devant nous, parce qu'en réalité, le rapport dit aussi qu'il faut faire un inventaire du patrimoine de la ville, que c'est complètement foutraque la gestion, qu'on ne sait pas ce que loue la ville, à quoi servent les locaux, que les recettes de la ville sont mal suivies. Et moi, j'ai surtout, enfin, et puis personne ne parle de ce qu'on peut faire au niveau fiscal aussi, mais je pense qu'il y a une grande remise à plat qui est possible. Donc en réalité, évidemment, il ne faut pas se faire peur avec ce mur de la dette. On sait qu'il est là. Mais quand on lit ce rapport de la Chambre régionale des comptes, finalement, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses à faire déjà. Ce n'est pas comme si on partait de comptes qui étaient... Enfin, il est quand même écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, met en doute la sincérité des comptes en eux-mêmes. Donc on a l'impression aussi qu'on a beaucoup de travail à faire sur une remise à plat, un fonctionnement normal, et que si ça se trouve, eh bien, il y a plein de potentialité sur cette ville que l'on dit pauvre, mais qui peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sait pas aller chercher l'argent là où on peut le trouver.
Donc pas de découragement vis-à-vis de l'obstacle financier. Dernier point, peut-être l'émission va se terminer. Il y a un troisième tour. Marseille est dans une
métropole. Voire un quatrième avec la métropole.
Et voilà, exactement. Je pensais à celui-là, effectivement, le troisième tour pour désigner le maire. Mais
exactement.
Le quatrième, c'est la métropole. C'est ce dont je voulais parler. Et métropole dirigée par Martine Vassal, qui, même si elle est battue, va être finalement l'interlocutrice de Michel Rubirola.
D'ailleurs, l'ambiance.
Sérieusement, comment on fait face à ça?
Mais comment on fait? D'abord, il y a des élections municipales dans toute la métropole, donc ça va peut-être changer aussi ailleurs. Nous, on est en contact, par exemple, à Aix, il y a une liste qui s'appelle Aix en partage. J'espère qu'ils vont gagner. On a des contacts à La Ciotat, on a des contacts dans l'ouest du département. Donc, c'est vrai j'espère qu'on aura le temps de montrer que notre démarche, elle est aussi métropolitaine et qu'on saura trouver des alliés aussi pour changer des majorités. La métropole est en fait une instance très peu politique. C'est beaucoup de marchandages entre les maires et on ne fait pas de la politique au sens vie de la cité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de débats gauche-droite, etc., de sujets de fond. Je pense que ça aussi, il faut essayer de le changer en attendant que le mode de scrutin change aussi, qu'on soit sur peut-être une élection directe des citoyens, pourquoi pas. Mais dans les contraintes qu'on a, il ne faut pas oublier que si Marseille change, peut-être que ça va changer aussi dans d'autres villes. Donc rien ne préjuge de la future majorité qui pourrait être trouvée à la métropole.
L'émission se termine. Je vous remercie, Sophie Camard.
Merci à vous.
Et pour la prochaine émission, on aura la réponse à toutes nos questions, savoir si finalement l'espoir est là.
Et bon courage aux oiseaux.
Merci bien. Au revoir.